C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, après l'interdiction du cellulaire en classe, est-ce qu'on doit l'interdire à l'école tout simplement? On a vu, par exemple, des mesures plus strictes décrétées en Ontario. Le Parti québécois en fait une bataille. Bernard Drinville a dit, ah ben peut-être, on réfléchit là-dessus. Alors, est-ce qu'on doit aller plus loin que les mesures actuelles, Luc?
Oui, il y a un magistral consensus, et puis on le sait, on l'a tellement entendu dans les derniers mois, obésité, interaction avec les jeunes, nombre d'heures d'activité par jour, la forme physique a diminué 30% depuis 1980. 30%, tu sais, il y a un test, là, faut que tu fasses des paliers, là, tu cours, puis là, le numérique s'allume, mais il y a 30% moins de paliers aujourd'hui quand tu fais le test en ensemble des enfants. Puis un lien direct entre le nombre d'heures puis les résultats scolaires. Et le diagnostic qui me plaît le plus dans l'ensemble des diagnostics qui ont été faits, c'est celui d'Étienne Bergeron. Il est enseignant à l'école Monique Pro à Warwick. Il dit « Il faut qu'on permette aux jeunes de développer leur propre dose de dopamine, pas avec une machine, tu sais, par eux-mêmes. » Alors, le consensus est magistral. Maintenant, est-ce que il y a des pays qui l'ont fait? L'Angleterre l'a fait, puis c'est amusant parce que l'Angleterre l'a fait de façon contagieuse, par contagion, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis une loi pour tout le monde. Il y a des écoles qui ont décidé de l'éliminer, puis tranquillement, le nombre d'écoles qui ont décidé d'éliminer s'est agrandi, puis à un moment donné, c'est rendu comme 98% des écoles. En Australie aussi, une interdiction. En France, c'est pas le droit avant 15 ans. Donc, de toutes les tentatives d'éliminer le téléphone, il y a juste une tentative qui retourne en arrière, c'est New York, parce qu'il y avait des problèmes de violence dans la ville et dans les parents, dans certains quartiers, les parents avaient peur et voulaient que les enfants puissent pouvoir les rejoindre. Et là, c'est le seul endroit où ils ont retiré le téléphone, ils ont remis le téléphone. Partout dans le monde où le téléphone a été enlevé, ça n'a pas créé de rébellion chez les enfants, ça n'a pas créé de problèmes administratifs et ça n'a pas été, on n'est pas retourné en arrière.
Mais pour la première fois de ma vie, les amis, moi, je suis dans le camp du oui.
Oh, OK.
Dans le camp du oui.
C'est un problème d'ajustement, d'adaptation, mais continue.
Non, mais je vous dis ça parce que, tout comme Luc, je partage son appréciation du très large consensus au Québec. En fait, il y a un fort appétit pour cette mesure. Bien, bravo à Bernard Drinville d'y songer. Et tu parlais, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a embrassé cet enjeu. Il me disait hier au micro, à l'émission, moi, il y a trois jeunes enfants, puis il en fait une affaire personnelle. Et lui, le combat qu'il mène actuellement, c'est un combat pour améliorer la santé de nos enfants, de nos élèves. Alors, je trouve ça absolument extraordinaire. Puis c'est un enjeu non partisan. Hein? Et ça, c'est important d'insister là-dessus. On est confronté à un phénomène de société. Et puis, il faudrait mettre un peu la politique de côté pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions. Cependant, il faut éviter de bousculer les choses. L'interdiction du cellulaire dans les classes, bon, il y a des écoles qui n'ont pas attendu la directive du ministre pour interdire les cellulaires en classe. Mais là, ça serait intéressant pour passer à cette étape supérieure de consulter, un minimum de consultation auprès des parents, auprès des jeunes qui sont concernés, auprès du personnel enseignant. Parce que là, j'entends déjà des parents dire, ben voyons donc, moi, mon jeune a besoin de son téléphone, bon, il est diabétique, si je veux le rejoindre. Mais ce que je comprends, c'est que les juridictions qui ont interdit le téléphone cellulaire à l'école, pas juste dans la classe, mais à l'école, conservent certains outils pour des activités de nature pédagogique. Puis les bienfaits sont à peu près partout, bien que peu documentés en passant, hein, bien que peu documentés. En Norvège, par exemple, l'Institut norvégien de santé publique a constaté que les jeunes filles qui n'ont pas de téléphone portable en classe ont moins besoin de consulter pour des troubles psychologiques. En Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni, les études montrent que l'absence de cellulaire, non seulement dans les classes, mais à l'école, augmente les résultats. En Espagne, ils ont même lancé le mouvement Adolescence sans portable. Ils ont récolté une pétition de 80 000 noms déposés auprès des députés. Ils veulent même interdire la vente des portables aux moins de 16 ans. Donc, on constate qu'il n'y a plus d'avantages d'interdire le cellulaire en classe, dans les écoles, qu'il n'y a d'inconvénients. Alors, dans ce sens-là, c'est l'UNESCO a constaté l'an passé, lorsqu'ils ont publié leur rapport sur l'éducation, qu'il y a une tendance très, très, très lourde partout sur la planète à l'interdiction des téléphones dans les écoles et dans les classes. C'est une bonne nouvelle.
Par ailleurs, pourquoi New York, ils ont reculé? Eh bien, c'est une leçon à tirer aussi. C'est pas juste à cause de la sécurité. C'est que l'application était différente d'une école à l'autre. Et ça laissait beaucoup de poids sur les épaules des professeurs et des directeurs d'école. Oui, non, oui dans les cours, oui dans les classes, une heure par jour, etc. À un moment donné, il y avait plus une règle qui était pareille que l'autre, puis il y avait personne qui l'appliquait pareil. Alors, une des leçons, c'est si tu l'appliques, applique-le.
Donc, mais prends l'Ontario. En Ontario, non seulement c'est l'interdiction d'avoir au primaire un téléphone, première affaire, c'est d'avoir un enfant de 10 ans, as-tu besoin d'un téléphone? Première question. La deuxième, on coupe l'accès aux réseaux sociaux dans l'école en tout temps. Donc, même si, par exemple, au secondaire, c'est le midi, tu as le droit à ton téléphone, ben tu pourras pas aller sur Facebook, sur TikTok ou sur Instagram, ça passe pas. Ça, je trouve ça quand même pas pire comme mesure.
T'appuies sur TikTok, puis c'est un message du Parti communiste roumain qui te dit...
Non, mais moi, je suis d'accord pour ce genre de mesure, sauf que, je mettrais un bémol, ça demeure avant tout une responsabilité parentale. Moi, je suis allé dans un resto en fin de semaine, à l'extérieur, donc je peux observer plus discrètement, deux adultes, deux ados assis à la table pour déjeuner et personne ne se parle. Les quatre parents, enfants sont sur tablette et téléphone.
C'est épouvantable.
Les quatre, pas cinq minutes, là, tout le long du repas. Et là, tu dis, OK, tu te promènes sur la rue, les gens sont au téléphone en permanence, ils rentrent dans des lampadaires parce qu'ils regardent pas où ils vont. C'est-à-dire qu'on peut bien dire aux enfants, c'est effrayant les temps d'écran, mais nous, comme adultes, on passe combien de temps devant un écran aussi?
Exactement. Puis tu sais quoi, la raison pour laquelle les jeunes utilisent le téléphone à l'école, c'est la même raison pour laquelle nous, on l'utilise au travail ou à la maison, c'est dans des périodes creuses, en attente d'une autre activité, parce que la personne est seule, elle a moins d'amis, elle est plus solitaire. Donc, première vue, il n'y a pas de raison valable de l'interdire. Ben, c'est pas si grave. Il attend son père, il va venir le chercher dans une demi-heure. Il a pris son téléphone. Le problème, c'est que on le voit pas ce qui nuit. Puis que ça finit par arriver à une situation comme celle que tu décris, où les gens sont en forme de sport, de cercle, de demi-cercle penché sur leur téléphone. Moi, j'ai eu l'expérience contraire en fin de semaine. Mon gars a invité un ami qui n'a pas de téléphone. Puis c'est le seul au monde. Il est arrivé avec son sac à dos. Dans son sac à dos, il y avait des jouets, des cartes, des ci, des ça. On est allé au restaurant. Ils ont tassé toutes les tables, les assiettes, les fourchettes. Ils ont commencé à jouer aux cartes. Il y avait un réel plaisir autour de la table. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Fait que là, je me suis dit, bravo à ces parents-là. Moi, je veux-tu faire pareil? Non, manque de courage.
Ben, c'est pas juste manque de courage, Luc. C'est parce que la pression sociale est épouvantable. Il y a un parent hier qui écrivait, là, son fils est en quatrième année. C'est le seul dans sa classe qui a pas de téléphone.
Quatrième année, un téléphone?
Oui, je vous jure, quatrième année. Les enfants veulent les téléphones parce que c'est le seul dans sa classe ou à peu près dans ses amis qui a pas de téléphone. Puis il dit, moi, je résiste, mais le pauvre petit est isolé. Alors, un autre avantage d'interdire le téléphone à l'école, c'est que cette pression, va probablement diminuer, voire même peut-être disparaître. Si on prend ton exemple, Paul, de cette petite famille-là, s'il n'y avait pas eu de téléphone, ils auraient fait quoi? Ben, comme Luc dit, les enfants auraient joué, ils se seraient parlé. Il y a pas si longtemps, la presse publiait un reportage, un article sur le manque d'empathie chez nos jeunes. Ben, peut-être que si, effectivement, on laissait les téléphones de côté, ils réapprendraient à jouer, à avoir du plaisir, à se
respecter. Ou à s'ennuyer aussi, Nathalie.
Ou à s'ennuyer, ce qui est très sain en passant, ce qui est très sain dans la vie, là, pas 24 heures sur 24, on s'entend, mais de temps en temps. Savoir ce que tu sais, les enfants, « Maman, je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie. » Ben oui, c'est correct de temps en temps s'ennuyer. Mais il y a tellement de vertus. Juste cet exemple, Paul, de la table avec les deux adultes, les parents, ça parle tellement. Et je suis convaincue que les parents réagissent là, en nous écoutant. Alors vivement puis, cette direction.
Moi aussi, ça m'amuse de regarder des bébés sur Internet. Là, je veux dire, je trouve ça rigolo. Là, puis ils sont vraiment
chats,
drôles.
Chiens,
là.
Oui,
ça, non, c'est drôle. Là. Mais tu passes une heure à faire ça. Là, t'as l'impression d'avoir fait un tour de sécheuse.
C'est abrutissant, mais Luc, de temps en temps, ça détend. Mais si tu fais ça tous les jours pendant une heure ou deux, là, j'avoue que... Ouais.
Bon, alors, on va partir la sécheuse. Et pendant la pause, au retour, on va parler de la Colombie-Britannique. Il y a encore un reportage ce matin là sur la consommation de drogue dure dans l'espace public. Alors, la Colombie-Britannique souhaite que le fédéral décriminalise la possession des petites quantités de drogue dure. Est-ce qu'on devrait avoir la même approche ici au Québec?
La commission Normando-Ferrandaise.
Est-ce que le Québec doit s'inspirer de la Colombie-Britannique et décriminaliser la possession de petites quantités de drogue dure, Nathalie?
Non, parce qu'il n'y a pas de consensus. En fait, on est loin d'un consensus au Québec. C'est un sujet qui divise énormément. D'ailleurs, le gouvernement de M. Legault a fermé la porte à cette possibilité en 2022. La mairesse Valérie Plante, l'année passée, à l'été dernier, au mois d'août, elle avait souhaité qu'une quantité simple soit décriminalisée sur le territoire de Montréal. Elle avait même pris l'engagement de faire des représentations auprès du gouvernement fédéral. Mais à moins que je me trompe, mais on l'a plus beaucoup entendu sur le sujet depuis. Dans le cas de la Colombie-Britannique, ce qui est intéressant, puis c'est pourquoi on en parle, c'est que le fédéral a autorisé, Santé Canada a autorisé un projet pilote d'une durée de 3 ans. Le projet est en œuvre depuis une année et là, pas plus tard qu'hier, la ministre fédérale responsable des dépendances a à nouveau permis l'interdiction de cette décriminalisation de la possession simple. Là, du côté de la province, là-bas, on parle d'une possession de 2,5 grammes de drogue dure. Alors, en bas de ça, vous n'êtes pas considéré, vous n'êtes pas accusé, vous n'êtes pas considéré comme un criminel, mais bien comme quelqu'un qui a des difficultés. Alors là, on dit, parce que ça avait causé polémique, parce qu'on permettait la consommation dans les espaces publics, là, devant le tollé de la population, le gouvernement a dit ben on réintroduit cette interdiction pour les hôpitaux, les parcs, les restaurants, le transport en commun, les plages. Par contre, pour les refuges, les résidences privées, les centres de consommation supervisés, ça va toujours être permis. Alors, moi, je trouve ça bien qu'il y ait une espèce de compromis. La vision de la Colombie-Britannique, elle s'explique bien sûr par la crise des surdoses qu'on constate depuis des années là-bas. Mais le gouvernement a dit que c'est un enjeu de santé publique avant d'être un enjeu de nature criminelle. Je pense que c'est là-dessus qu'on devrait travailler là au Québec pour accompagner toutes ces personnes qui souffrent énormément, il faut le dire.
Oui, c'est ça. Il faut faire une différence entre la décriminalisation ou la dépénalisation et de l'autre part, la judiciarisation, la légalisation. C'est pas une légalisation, c'est une décriminalisation. Ça veut dire que tu vas te faire arrêter, mais tu vas avoir une amende. Mais tu n'auras pas de dossier. Portugal le fait depuis 20 ans. Ça marche tempête, comme dirait Nathalie. Ils ont eu une baisse énorme des surdoses, énorme aussi de la pression sur le système de justice. Mais ils n'ont pas eu de baisse de consommation, par exemple. Les gens qui ont étudié cette affaire-là, puis les gens qui se sont prononcés, les gens qui connaissent ça, la directrice régionale de la santé publique, les corps policiers, même le corps policier de Montréal, etc., sont quasiment tous pour. Parce que c'est la charge sur le système de prison pénale est énorme. Plein de monde en prison qui sont de simples consommateurs de drogue. On n'a pas besoin d'être là, puis ils sont difficiles à gérer. Là-dedans, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale. L'arrestation est un problème aussi. Passage en cour est un problème. On pourrait alléger, on pourrait enlever un gros pourcentage de monde qui alourdit le système. Ça, c'est la bonne chose à faire. Maintenant, il y a un autre pays qui le fait, Oregon, puis eux, ça n'a pas marché. Donc ça, c'est Portugal qui a bien marché, puis ça, c'est l'exemple que tout le monde donne. Oregon, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché à Portland? Parce que la population a fini par retirer son support à cette proposition-là, un peu comme à Vancouver. Ils étaient tannés d'en voir partout, ça, c'est un. Puis deuxièmement, si... je ne sais pas si tu es allé à San Francisco, avez-vous vu le nombre d'itinérants à San Francisco?
Mais c'est épouvantable.
Non, mais Los Angeles, San Francisco... Oh. C'est-à-dire que, moi, je trouve que... T'as un argument sur le fait, est-ce qu'on amène devant le tribunal quelqu'un qui est arrêté avec du crack? Est-ce que ça donne quelque chose? Probablement rien, en pratique. Mais là où les citoyens sont tannés, là, c'est dans l'espace public. Ce matin, un centre de soins de longue durée avec des bénéficiaires 25-60 ans handicapés consomme du crack dans l'entrée, consomme du crack dans l'établissement. C'est sur le René Lévesque. C'est à côté de l'allée du crack sur Saint-Dominique. Les centres d'auto-injection supervisée qu'ils sont pas trop. Tu sais, je comprends que les bonnes âmes sont toutes d'accord avec ça, mais ils habitent pas à côté de ces endroits-là.
C'est ça. Mais c'est pour ça que
c'est ce bout-là que ça devient, qui devient lourd.
Oui, mais la différence entre Portland puis le Portugal, c'est Portland, c'est petit, là. Et ce qui se passe, c'est sur la côte ouest américaine, si une ville, par exemple, San Francisco permet l'itinérance et permet de quêter sur la rue. Toutes les autres villes aux côtés de San José, puis ça, ils permettent pas. Où tu penses qu'ils vont aller, les gens qui veulent quêter sur la rue?
Non, mais San Francisco, c'est épouvantable.
Ben voilà. C'est que si Montréal le fait, ben, il faut que Toronto le fasse. Il faut qu'on le fasse à plusieurs villes ensemble. Parce que s'il y a juste nous qui le faisons, il va y avoir un afflux. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas compris encore. rare, puis j'avoue là, j'ai pas trouvé l'information pour les drogues multi substances. Tu sais, comme par exemple maintenant il y a de plus en plus de xylaxine qui est mélangée ou de fentanyl qui est mélangée avec la drogue que t'achètes, puis tu sais pas ce que tu prends. Ou alors même le contraire, on te donne des opioïdes puis des amphétamines mélangées ensemble, puis l'un est contraire à l'autre, donc on peut même plus te donner de l'alaxone pour te guérir si jamais tu fais une surdose parce qu'il y a une contre-indication dans une des deux drogues. Ben, ces drogues là que tu prends puis qui sont toutes mélangées les unes avec l'autre, qui cassent vraiment la capacité d'une personne de réagir. Je me demande si le fait de permettre les petites doses, ça ne va pas juste en donner un encouragement à ce type de marché-là.
Ben, ou alors, c'est l'argument de ceux qui s'opposent. C'est l'argument de ceux qui s'opposent à la mesure.
Au Portugal, en faisant des vrais centres d'injection supervisés avec du vrai personnel puis du vrai soutien aux gens, ils ont été capables d'éliminer ça. Donc, il y a là dans un modèle qui marche, mais un modèle qui ne marche pas au sein de la dépénalisation.
Mmh. Moi, je vais vous lire un courriel de Marie-Josée, qui est la mère d'un fils qui a des gros problèmes. Elle nous écrit: la décriminalisation existe déjà au Québec. Je me suis dit, ben bon, qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, son fils a subi plusieurs traitements de méthadone, suboxone. Tout a échoué. Il a fait une multitude d'overdoses. Alors, écoutez bien ça. Maintenant, il reçoit une prescription de son médecin de fentanyl et de morphine à sa pharmacie locale.
Fentanyl,
oh oui, écoutez bien ça. Oh oui, il consomme de façon sécuritaire. Il est devenu père aidant dans un organisme de prévention, de réduction des méfaits. Elle lui donne même la permission de consommer lorsqu'il va chez elle de façon sécuritaire, afin qu'il soit membre à part entière de la famille. Premièrement, toute mon admiration pour cette mère qui a, vous comprendrez, qui a vécu son lot de désespoir, qui a vécu l'enfer avec son fils, mais elle a toujours gardé une communication avec lui. Alors, la solution qu'ils ont trouvée pour lui, c'est ça. Puis le gars, il est devenu bénévole dans un organisme qui vise à réduire les méfaits. Fait qu'imaginez ce qu'on peut faire lorsque la consommation est encadrée. Est-ce que ce modèle-là peut s'appliquer à tout le monde? J'en doute. Par contre, Paul, quand tu dis les citoyens qui vivent à proximité des centres de consommation supervisés ou d'auto-injection sont sans connaissance, t'as raison. Mais c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Ben, Parce que ça prend une solution, là. Il y a plus de monde qui sont morts de surdose en Montréal.
Mais tu ne vas pas installer ça à côté d'un parc puis d'une école. Tu n'as même pas le droit d'ouvrir une succursale de la Société québécoise du cannabis à une certaine distance d'un parc. Puis la ville de Montréal, on le sait, je l'ai dit souvent, là, a fait une pseudo-consultation, implante ça. L'entrée principale n'est pas finie. On ouvre le centre. Après ça, on se demande pourquoi il y a, disons, un certain nombre de personnes désorganisées dans la rue. C'est sérieux, là. On est pour l'aide, on est d'accord que ça se passe dans un... Mais on peut-tu prendre le temps de le faire comme du monde?
Tu sais que dans les discussions, là, à savoir si on devrait le faire au centre-ville ou pas, ben il y a l'argument des gens qui disent oui, on doit le faire en plein centre-ville parce que c'est là qui sont les usagers, les utilisateurs. On doit pas les délocaliser. De toute manière, ils iront pas si on va ailleurs. Mais moi, j'aime pas cet argument-là parce que il y a une question de cumul des nuisances. Tu sais, t'habites au centre-ville, dans ces coins-là, t'as pas d'arbres, beaucoup de circulation, un commerce intensif avec les vidanges, puis ci, puis ça. Tu rajoutes une couche d'itinérants, tu rajoutes une couche de personnes qui ont des gros problèmes de consommation. À un moment donné, ça fera. Fait que moi, j'aime pas l'idée de faire fi du cumul. Je pense qu'il faut prendre en considération le cumul.
Merci à tous les deux. Ah, demain, c'est vrai, on a un commissaire invité. Gildor Roy sera avec nous. Le commandant Chiasson, pour être plus précis.
Commandant Chiasson.
Commandant
Chiasson.
Je ne sais pas s'il va mettre son habit, hein, son saut.
On peut lui demander. La radio, c'est toujours efficace. Merci.
C'est 23.